Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Nous parle d'émotion, les filles sont concentrées sur leurs notes. Bienvenue à la conspiration des planches, première de la saison. Évidemment, les théâtres ouvrent leurs portes tout doucement par des créations. Et la conspiration des planches démarre pour une nouvelle saison avec des hauts et des bas et beaucoup de plaisir, j'espère. L'émission critique des arts de la scène, comme chaque mercredi 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h. Alors, à côté, il y a Sophie, Elisabeth et Catherine. Bonsoir, bonjour.
Bonsoir, bonjour.
Bonjour.
Au niveau des créations, on va sur des classiques, hein, La vie devant soi de Romain Gary et Mila Jarre au théâtre Le Public. On ira à L'écume des jours, Boris Vian, à l'atelier 210 au niveau des créations. Au niveau des créations qui ont lieu cette semaine, dont les places vendent comme des petits pains, on parlera de Nothing Hurt et Deux voix au théâtre Les Tanneurs et La Balsamine qui fait une nouvelle ouverture avec une nouvelle direction. Tout ça dans la petite demi-heure. Mais là, je me retourne vers Sophie. Sophie, toi, tu es partie voir ce Boris Vian, hein, L'écume des jours, à l'atelier 210.
Ce Boris Vian que j'attendais parce que ça me permettait de me rafraîchir la mémoire. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu ce livre, L'écume des jours de Boris Vian. Pour rappel, quand même, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, en quelques mots, cette histoire. Donc, il y a Colin, un jeune homme qui tombe amoureux de Chloé, qui, au fur et à mesure de l'histoire, va tomber malade. Elle a un nénuphar dans le poumon. Et à côté de ça, il y a d'autres personnages, dont Chick, le meilleur ami de Colin, qui dépense tout son argent parce qu'il est fan de Jean Solpartre. Là, on fait face à une des compétries célèbres de Boris Vian. Donc, dans ce livre, dans cette histoire, on retrouve les thèmes de l'amour, de la maladie, et puis aussi donc l'incompréhension face à la maladie, et la critique du travail qui rabaisse l'homme à l'état de machine, la superficialité, donc l'élévation au rang de star, de personnalité, en l'occurrence Jean-Paul Sartre. Et voilà, on est dans un univers qui est à la frontière du réel et de l'imaginaire. Il y a plein d'images loufoques et totalement farfelues. C'est assez poétique aussi. Et ici, en fait, cette adaptation, donc, c'est mise en scène par Emmanuel de Koninck. J'ai trouvé que c'est une mise en scène très vivante. Il y a beaucoup de chansons, voire parfois trop. Il y a de la musique aussi, piano sur scène, guitare, etc. Et il y a aussi une scénographie qui nous fait beaucoup voyager d'un appartement à l'autre, en passant par la rue, par une église, un hôpital, etc.
Et comment justement on fait ces multiples lieux sur scène ?
Alors, tout se fait avec des morceaux de portes, des escaliers, et tout ça est bougé d'une scène à l'autre. Sur fond musical, on a de la musique ou de la chanson pendant que les comédiens changent le décor.
Et Sophie, est-ce avec que c'est un spectacle musical ?
Oui, oui, il y a de la musique, mais c'est, je dirais que la musique fait plutôt, c'est plutôt un intermède plutôt que dans le contenu même, je dirais. Et voilà, donc même si la mise en scène a gardé quelques trouvailles, il y a le fameux piano cocktail, le mot valise, un piano qui fait des cocktails en fait, de Boris Vian. Même si ils ont gardé ce genre de choses, je trouve qu'on a perdu beaucoup du texte en fait. Parce que voilà, pour le spectateur qui n'aurait pas lu L'écume des jours, il fait peut-être face à des situations qui se succèdent, qui sont à la fois ancrées dans le réel et avec pas mal d'éléments aussi un peu surréalistes et un peu foufou.
Rappelons aussi que c'est un roman à la base, voilà. Et non pas une pièce. Donc il y a eu un travail d'adaptation beaucoup plus important qu'une simple mise en scène.
Voilà, tout à fait. Mais voilà, malgré tout, je pense qu'on ne peut pas, étant donné le nombre de personnes qui ont dû lire ce livre, on ne peut pas y couper et forcément on se remémore le livre et on y perd quand même beaucoup, notamment... En fait, cette histoire se déroule en deux parties et il y a vraiment une évolution de la maladie de la jeune héroïne. Et pendant toute cette évolution de la maladie et en parallèle de son copain Colin qui est ruiné au final. Dans le livre, on ressent vraiment beaucoup des allusions au marécage, d'où le titre aussi « L'écume des jours ». Et on sent un enlisement et une ambiance qui devient vraiment pesante et lourde. Et l'appartement...
On sent un étouffement et on a l'impression d'avoir du mal à respirer comme Chloé. Et là, pas du tout. Là,
c'est super. Ça, voilà.
Catherine, toi, l'as vu dans le spectacle, tu sens l'étouffement.
Non, justement. Non. Okay. Moi, je trouve que je suis tout à fait d'accord avec toi. On y perd énormément par rapport à l'œuvre originale. Pour faire un mauvais jeu de mots, on a l'impression que c'est passé par l'écumoire et qu'il en reste, le fil narratif, mais on ne retrouve pas du tout, je trouve, moi, l'ambiance jazzy de Boris Vian, son swing, son...
Mais justement, la musique, ils ont joué sur quel genre
alors... Mais non, ce sont des adaptations, ce sont des chansons de maintenant, ce n'est pas du jazz. Donc pour moi, ce qui fait force dans le livre, c'est justement tout ce langage imagé et farfelu de Boris Vian et la présence, les références permanentes au jazz. Et ici, on les retrouve pas dans les choix musicaux.
On a du Sinéad O'Connor, on a l'Afrique, c'est chic, on a des... comme ça, des références un peu bizarres qui, moi, j'ai pas tout à fait compris ce que ça venait faire là-dedans.
Parce que malheureusement pour Emmanuel de Koning, ce roman est aussi inscrit dans une époque très fortement avec ce fameux Jean-Saul Partre, inutile de vous dire à quoi il fait référence, et l'époque jazz, évidemment.
Et aussi l'époque de l'après-guerre, en fait, ça a été écrit en 46 et il y a cette effervescence, Saint-Germain-des-Prés, le côté on a envie de vivre après toutes ces années de privation.
Mais il y a tout un matériel riche d'après-guerre, les chansons, jazz et tout. Il aurait pu les utiliser s'il met du Sinéad O'Connor. Ou...
Mais on retrouve quand même cette fraîcheur, ce côté jeunesse pétillante dans certaines scènes, malgré tout.
Mais il y a une atmosphère qui n'est pas plantée. Non.
Et en plus, je pense que c'est aussi dû à la salle. C'est une salle où l'acoustique est très mauvaise. Et donc, tu as toujours l'impression que la pièce se perd. Moi, j'ai toujours l'impression que ça se dilue comme ça. Et là, ça m'a d'autant plus frappée que ça partait un peu dans tous les sens et qu'il y avait besoin d'une atmosphère. Pour moi, c'était le plus important.
Vous l'avez vu à la première?
Oui.
Okay. Est-ce que c'est un système frontal, face à face? Je veux dire, une salle classique? Ils n'ont pas aménagé l'atelier 210 où on est en cercle, par exemple.
Non, c'est la configuration classique.
Et qui joue là-dedans ?
Il y a plusieurs jeunes. Il y a Julien Vargas qui ne démérite pas du tout en Colin, un jeune candide amoureux. Marie Dubled, Fanny Dumont, Michelangelo Marchese, il faut dire qu'il est très très bon. Il apporte une touche comique qui fait du bien. Et en même temps, je trouve que souvent, ça tombe trop souvent dans la farce, justement. Je trouve que Emmanuel de Koning est assez à l'aise dans l'humour, la farce du début, mais quand ça devient plus grave et plus émotionnel, alors là, c'est beaucoup moins réussi.
Malgré tout, moi, je note quand même, donc, avec Michelangelo Marchese, il y avait une scène qui se passe à l'église, le mariage de Colin et Chloé, qui est très drôle parce que c'est une grosse critique de la religion, mais on est vraiment dans le comique de gestes, les mimiques à la De Funès. Je trouvais ça facile, mais en même temps, ça marche, c'était très drôle.
Quelqu'un avait vu Peter Pan ?
Moi, j'avais vu Peter Pan et j'avais la même critique à lui faire, c'est qu'il manquait... À chaque fois, c'est intéressant, à chaque fois, il s'attache à des œuvres très féeriques et à chaque fois, il rate l'ambiance féerique. Donc, on a l'impression qu'il en a fait quelque chose de beaucoup plus plat.
C'est une maturité, ça.
Il faut savoir aussi que Peter Pan, c'était de Régis Loisel. C'était adapté de la BD, donc de quelque chose de beaucoup plus noir. Moi, je ne l'ai pas vu, ce spectacle.
Et c'est un jeune metteur en scène.
C'est encore un jeune metteur en scène. C'est vrai, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il avait joué le rôle de Colin en 1999 dans L'écume des jours, mis en scène par Bernard Damien au Rideau de Bruxelles.
Donc, je crois que c'est cette version-là que j'ai vue, alors.
Donc, il sait ce que c'est que de mettre en scène L'écume des jours et sait à quel point c'est difficile. Je trouve qu'il s'attache souvent aussi à des œuvres un peu enfantines et ça lui correspond bien. Il a comme ça un physique et une voix particulière, mais pour moi, ce n'est pas tout à fait réussi.
Donc quoi, on reste sur la fin.
Oui, ça manque un peu d'ambition par rapport à la richesse.
L'écume des jours à l'atelier 210 jusque...
C'est jusqu'au 8 octobre. Et donc toutes les infos sur atelier210.be ou au 02 732 25 98.
Voilà, alors la saison cette année en septembre, c'est aussi l'événement. La Balsamine a une nouvelle direction. Après 17 ans avec Christian McKills, Catherine, il y a un renouveau apparemment.
Tout à fait, avec Monica Gomez et Fabien de Hasseler, qui sont en fait un couple à la ville aussi, et qui ont repris la direction de cette Balsamine, moi je trouve, avec un projet très original, très ambitieux, qui moi me met très fort en appétit, rien que leur programme, je trouve, change du tout au tout par rapport à une Balsamine qui se cherchait un petit peu ces derniers temps, qui flottait un petit peu. Là, clairement, on prend le parti d'un... d'un travail qui mise plutôt sur l'expérience, la recherche, le processus, plutôt que des produits aboutis. Ce qui fait que tout au long de la saison, on va avoir des choses un peu surprenantes. Par exemple, une audition publique où le spectacle, c'est le fait d'assister à une audition publique pour auditionner, je pense, des danseurs. Il y a notamment aussi un festival Genèse. Mm-hmm. C'est avec ça qu'il commence très bientôt, à partir de lundi prochain.
Lundi, toute la semaine.
C'est, j'ai l'impression, aussi une manière de présenter un petit peu tous les artistes qui vont faire cette nouvelle saison, dont Pierre Mégos, qui sera l'artiste associé de la Balsamine. Genèse, pourquoi ? Parce que chaque jour, un nouveau créateur qui va aborder un thème différent, mais on ne sait pas très bien à quoi s'attendre. Ce ne seront pas des spectacles à proprement parler. À mon avis, ce sera plus une expérience. Comment tu le sens, toi, cette nouvelle saison ?
C'est clairement un théâtre d'art et d'essai. Hein. Donc, il faut savoir que les deux qui dirigent ça, ce sont des comédiens eux-mêmes. Comédiens chez Claude Schmitt, dans America et dans Frankenstein. Donc, voilà, ils ont dû reprendre le théâtre avec Martine Wickert, qui a créé la Balsamine. C'est vraiment un théâtre d'art et d'essai. Certains m'ont dit un télo ou un peu opaque. Moi, je dirais juste aux gens de se méfier de l'édito ou de la communication qui est un peu opaque parfois, de ne pas s'effrayer, mais qui a vraiment une idée de recherche. Et ça manquait un lieu comme ça à Bruxelles où on vous dit, voilà, chez nous, ce sera du labo, ce sera de la recherche, et voilà. Et en plus, ils décloisonnent enfin clairement les disciplines, donc danseurs, musiciens, tout ça se mélange. Il y a par exemple Thomas Turin qui va faire une création. Et ce qui est intéressant dans la semaine, c'est par exemple Stéphane Arcas qui est un plasticien. Voilà, ils vont le mettre à la mise en scène. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais comme tu dis, ils ne proposent pas un produit fini, et c'est bien de le marquer. C'est vrai qu'à un moment donné, ça gonfle d'avoir des work in progress, on finit par en rire, c'est bon les work in progress. Mais ici, comme la saison est plus ou moins fichée comme ça, voilà. Mais maintenant, il faudrait amener un public curieux là-dessus.
Oui, moi je crois que ça s'adresse surtout à des gens qui ont envie d'expérimenter la création de l'intérieur. D'ailleurs, ils proposent pas mal de rencontres avant les spectacles, après les spectacles, pendant les spectacles. On peut aller aux répétitions, on peut manger avec les artistes. Et ça, je trouve ça pas mal. Mais la question, c'est vrai, c'est est-ce qu'ils vont trouver leur public. Ouais. Mais c'est une proposition intéressante, comme tu dis, ça manque. Moi, je trouve ça emballant.
Oui, et puis on voit un peu les artistes, on va aller voir. Donc lundi, il y a Pierre Mégos qui est un performeur qui, lui, apparemment, fait des visions sur le monde. Il sera là dans la saison, il va faire un petit laboratoire dans un coin. Lundi, apparemment, il va essayer de s'immerger dans un film en direct. Il fait tout un travail visuel. Moi, j'étais voir les capsules sur le net. C'est très perturbant comment on voit un comédien que vous voyez là-dedans et deux secondes après, il est dans un film. Donc c'est assez étrange. Claude Schmitt, ce qui est intéressant, fait un salon des réfusés. Alors c'est un cube hein, en plein milieu. Ce qui est intéressant de Claude Schmitt, c'est qu'il a été encensé et il a été décrié. Donc encensé dans America, on a dit waouh, on l'a pris dans le Kunst et tout. Et dans Frankenstein, il s'est complètement planté dans le cadre du Kunst avec une histoire totalement foireuse. Ça, c'est les coulisses du théâtre avec des projets ambitieux et puis il y a eu des mesquineries entre eux avec le groupe off sur une tétralogie sur l'humanité. Et donc, il va reprendre plein de scènes qu'il s'est auto-censuré lui-même et des rebuts, il va essayer de revenir à quelque chose d'artisanal.
Il y aura aussi des installations sauvages dans la ville avec des gens qui viennent des arts plastiques, de la performance pour un petit peu interagir aussi avec la ville. Donc clairement, ça s'ouvre à plein de choses, ça c'est bien.
Donc Genèse, c'est le festival la semaine prochaine pour rencontrer les artistes, donc performance. Il y a un spectacle sur l'argent qui vient d'un débat de Joseph Beuys, on va voir comment c'est actualisé. Et il y a aussi le dernier jour, je crois que c'est dimanche, hein, le dernier jour, Stéphane Arcas, donc ce plasticien qui va mettre en scène un manifeste de 68, un manifeste totalement anti-mal. C'est une dame qui a essayé de tirer sur Andy Warhol qui écrit un manifeste. Moi j'ai eu l'occasion de le feuilleter, c'est assez très donc les hommes, faites attention si vous allez voir ce spectacle, parce que l'homme devient un morpion, n'est pas nécessaire, il faut le buter. Enfin, il y a toute une virulence comme ça dans ce pamphlet. Et alors ce qui est bien, Stéphane Arcas va monter ça avec une quinzaine de comédiens, de danseurs, de chanteurs. Il y a toute une ambiance. Ça, c'est le dernier jour et ça se termine, je vous le donne en mille, par une Big Bang Party, donc Genèse, 7 jours. Ça permet d'imprégner et d'aller voir un peu plus loin. On souhaite bon vent, en tout cas, à cette Balsamine d'art et d'essai. On espère que ce ne sera pas opaque, parce que nous aussi, on a un peu peur de certains spectacles chiants. Mais vu les artistes, ça vaut le coup d'aller voir cette curiosité. Jeunesse, de lundi au dimanche, à la Balsamine, ça devient 20h30. Et je parie, Catherine, il y a aussi le restaurant
Je crois que tu adores. Le buffet continue, et rien que pour ça, ça vaut la peine.
Buffet multiculturel, Balsamine, 20h30, la nouvelle direction.
www.balsamine.be.
La conspiration.
On est de retour dans la conspiration des planches.
Oui, Nico a gardé un accent américain. Alors, bienvenue à la conspiration des planches, l'émission critique, deuxième partie. Alors, création à nouveau au public. Encore un classique, La vie devant soi, Romain Gary, Émile Ajar. Et toi, Elisabeth, tu es partie voir La Bête pour nous.
J'ai vu La Bête et bien voilà, moi, ma foi, j'en suis sortie tout à fait vivante et même tout à fait, peut-être pas absolument conquise, mais tout à fait convaincue que ben voilà, ça mérite d'être vu. Bon, bien sûr, il y a quand même deux acteurs qui sont aux commandes là-dedans, Janine Godinas et Dick Elbaz. Bon, voilà, déjà ça, c'est déjà quand même une garantie que ça va bien se passer. Il y avait d'autres questions, c'est notamment comment est-ce qu'on adapte ce roman. On a vu que ça peut poser des problèmes. Là, finalement, l'adaptation de Xavier Jaillard est assez linéaire, une solution très simple, mais bon, elle fonctionne, pourquoi pas. On a un des deux personnages principaux, donc le petit garçon, puisque c'est bien sûr de La vie devant soi qu'il s'agit, le petit garçon qui fait des apartés publics et puis des scènes dialoguées avec Madame Rosa ou avec le docteur Katz essentiellement. Donc voilà, on passe de l'un à l'autre.
Itzik Elbaz joue l'enfant.
Itzik Elbaz joue l'enfant, donc il y a un double retournement. C'est un adulte qui joue l'enfant et bien sûr c'est quelqu'un qui il joue un personnage.
C'est le narrateur aussi.
C'est le narrateur aussi. C'est un personnage donc de petit enfant arabe. C'est Momo, mais ça prête évidemment à quiproquo dans le texte. Donc là, il y a aussi un retournement qui correspond aussi à ce que le contenu de ce texte veut nous dire, puisque faut tout de même rappeler que c'est un texte qui date quand même. C'est un prix Goncourt qui a été décerné à Émile Ajar en 1975. Et c'est un texte qui aborde toute une série de thématiques qu'on retrouve là de manière un petit peu squelettique. Mais pourquoi pas, puisqu'il est question de race, de religion.
De banlieue, d'euthanasie.
Enfin, il y a toutes sortes de thématiques comme ça qu'on connaît très bien qui apparaissent là. La place de la mort, le respect, et puis finalement un message final bon, qui peut être la cerise qui est un peu en trop sur ce gâteau-là et un petit peu appuyée, mais c'est vrai, le message tout simple, c'est que la vie sans amour, ça ne marche pas. Voilà, enfin bon, c'est toujours bon à prendre quand même.
Élie, tu disais que c'était daté, pourtant les thèmes sont assez universels.
Non, je veux dire daté dans la mesure où effectivement, 75, ça nous fait quand même quelques années là maintenant. Mais c'est vrai que je me suis demandé s'il n'y avait pas... Je me suis demandé comment est-ce qu'on avait reçu encore ce roman à l'époque, évidemment, parce que je pense que ce qu'il veut nous dire devait être perçu autrement maintenant. Bon, maintenant, qu'un juif et un arabe doivent être sur un pied d'égalité, c'est quelque chose qu'on a abordé très souvent.
Les années 70, il y a aussi la banlieue qui commence, hein, pour
voilà,
les arabes.
C'est ça, tout à fait, oui, bien sûr. C'était le début. Bon, maintenant, je ne vais pas faire des calculs, mais enfin, on est quand même un certain nombre d'années après. Donc, fatalement, ce n'est pas que la thématique est nouvelle pour nous. Mais encore une fois, il y a des nouvelles générations aussi qui sont là et qui ont aussi ce message-là à entendre, qui est un message de très, très grande tolérance. Il faut dire aussi que Madame Rosa, qui est le personnage incarné par Janine Godinas, eh bien, elle est beaucoup plus proche de la guerre. Elle a eu tout ce passé de Auschwitz, etc. C'est aussi une prostituée au grand cœur. Donc, on a un petit peu tous les tabous qui
passent. Et un peu raciste aussi.
Pas vraiment raciste, enfin je sais pas si on peut dire comme ça, mais elle est pragmatique, je veux dire. C'est vraiment quelqu'un
qui a un certain franc-parler, quoi.
Voilà, qui a dû se défendre, son personnage a accueilli des enfants de toutes les races, les défend et bah oui, un chat c'est un chat, quoi. Ça, c'est clair. Mais ça fait partie de la... Il y avait quand même aussi dans cette adaptation et dans l'interprétation difficile d'Itzik Elbaz, parce que comment est-ce qu'on fait pour jouer un garçon qui a 10 ans, une sorte de langue qui se forme avec des mots qui sont un peu déformés, des choses comme ça, qui donnent une certaine truculence quand même à certaines scènes. Et le rythme est là tout le temps, pendant 1h40, on suit ça. C'est vrai que j'avoue que je n'ai pas décroché, pas d'entracte et tout ça, mais on y va et voilà.
Et Qui met en scène tout ça, justement?
Alors, qui met en scène? Eh bien, c'est Michel Kassellenbogen.
Le directeur du public. Voilà. Grande salle ou c'est une œuvre intime?
Non. C'est tout à fait la grande salle avec un grand décor. Et voilà, c'était vraiment bien plein à craquer aussi. Je pense que c'est un spectacle qui va bien marcher.
C'est intéressant parce que c'est lui déjà qui avait mis en scène Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, qui est un petit peu le même genre de pièce, en moins intelligent, on m'a dit.
Peut-être, celle-là je ne l'ai pas vue, donc je ne l'ai pas relevée.
Et blanc.
Et comment sont les bêtes de scène? Parce qu'on a quand même Itzik et Janine.
Voilà, les bêtes de scène sont très bêtes de scène. Franchement, Janine Godinas, moi c'est toujours un plaisir de la voir. Je ne sais pas quel âge elle a, mais elle ne manque pas d'énergie. Elle a aussi un rôle qui est pas simple, parce qu'il y a cette femme décline, évidemment, on la suit jusqu'au moment où elle choisit de mourir dans la dignité. Encore un thème qui s'est développé ces dernières années. Et en fait, elle a des moments d'absence. Mais ces moments d'absence sont assez saisissants sur la scène, évidemment, parce que ça n'est que de la présence. Et c'est vrai qu'elle a une présence magique, ça, c'est sûr.
Grande présence, l'absence, c'est quand même...
Mais c'est un beau moment de jeu, évidemment, parce que tout s'arrête.
Et Elisabeth, justement, ce Romain Gary, Émile Achard, parce qu'il y a derrière ce livre, il y a tout le temps...
Oui, un écran de fumée. C'est quand même la plus grande supercherie littéraire, je pense, du XXe siècle, quelque part, parce que Romain Gary, qui était quand même un écrivain qui avait pignon sur rue, en avait eu, à un moment donné, un peu marre de l'étiquette qu'on lui collait tout le temps. Il avait envie de pouvoir recommencer à zéro, qu'il soit lu pour ce qu'il écrivait, etc. Et c'est comme ça qu'il a créé ce qu'on appellerait maintenant un avatar, qui était Émile Ajar. Mais ils ont été très loin, il a été très très loin dans ce jeu-là, puisque non seulement il a fait publier ses bouquins sous un autre nom, donc qui était Émile Ajar, mais il a créé Émile Ajar en chair et en os, en s'appuyant sur l'aide de son petit cousin ou de quelqu'un qui était proche et qui était dans la complicité. Et donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui sont tombés dans le panneau. Il y a des journalistes qui ont interviewé, effectivement, Émile Ajar, pensant que c'était un auteur à part entière. Et c'est comme ça que Romain Gary a eu deux Goncourt aussi, en 75 ou 76.
Qui est inédit et qui ne se fait pas.
C'est peut-être ce que nous prépare Michel Houellebecq.
Peut-être.
Où est-il?
Il a disparu.
Il y a au moins une chose qui est sûre, c'est qu'il n'est pas avec nous en studio.
Mais c'est rassurant, ça montre que les artistes, à un moment donné, peuvent jouer avec les codes et peut-être ramener un plus. Et puis
cette nécessité de se refaire une virginité et de toujours cette exigence aussi d'être lu pour ce qu'on est lu et pas par rapport à l'étiquette et à la médiatisation qu'on peut avoir. Donc voilà
la vie devant soi, Romain Gary, Émile Ajar, on ne sait plus qui est qui, c'est à voir au public.
Jusqu'au 22 octobre, donc on a un peu le temps, mais bon, je pense que ça va bien démarrer, donc pensez-y peut-être.
Et alors, Elisabeth, tant que je t'ai sous la main, il y a une reprise qui est « Toutes nos mères sont dépressives ». Apparemment, on a prolongé les dates parce qu'il y a du monde, c'est à l'arrière-scène.
Oui, c'est un des tubes de la saison passée, il faut quand même bien le dire. Alors, c'est une histoire un peu autobiographique de
Thibault-Neve,
qui joue avec Quentin, mais j'ai oublié le nom.
Marteau, non ?
Voilà, et en fait, ils parlent de leur mère, tout simplement, mais de manière très originale, puisqu'ils incarnent eux-mêmes leur mère. Et même si le titre peut être un petit peu alarmiste, finalement, c'est un spectacle assez drôle, parce que ça va assez loin, le dialogue est léger, il y a une belle énergie, etc. Et donc, si à cette reprise, effectivement, c'est qu'il y a une demande derrière et quand même quelque chose d'un peu jubilatoire dans ce spectacle.
Catherine, toi, tu avais un peu de réticence.
Moi, j'ai des réserves par rapport au texte, mais je reconnais qu'au niveau du jeu des acteurs, c'est savoureux de voir ces deux hommes perruqués jouer leur mère, sans tomber dans la caricature, mais avec un petit côté comique quand même.
Et puis pas mal d'autodérision et tout ça, ça fait qu'on passe un bon moment, effectivement.
Maintenant, dire que c'est un tube, il faut quand même rappeler que l'arrière-scène, c'est pas beaucoup de place. Hein.
Non, mais
dans la saison de l'arrière-scène,
Oui, puis dans la réputation. version, ils avaient déjà prolongé à ce moment-là. Mais bon, effectivement, c'est pas une grande salle.
Le titre accroche, hein, toutes nos mères sont dépressives, il y a tout le monde qui se reconnaît de près ou de loin dans ce bazar.
C'est un bon titre.
Donc voilà, c'est à l'arrière-scène, je crois que c'est jusqu'au 8 octobre.
Tout à fait.
Faites attention, apparemment ça se vend bien, les places, et donc voilà.
C'est déjà complet, on peut déjà le dire. Eh bien, ce soir, le 14, le 15, le 16, le 17, le 22 et le 23 septembre.
Eh ben, nom de Dieu. Alors, moi, je vous emmène à un autre truc qui risque aussi d'être sold out, mais ça, je vous l'explique parce que c'est une jauge de 50 places. Hein, et c'est Armel Roussel qui fait à l'atelier au Tanner. Il fait un spectacle à 19h qui s'appelle Nothing Hurt et il prend Falkriter. C'est un auteur Falkriter qui tape bien sur le désarroi un peu de notre époque, un peu largué. Il en fait une fiction, un peu quatre gens qui planent.
Une fiction épurée, hein, parce qu'il n'a pris que le texte. Ouais. Apparemment, au départ, la pièce de Falkriter, c'est tout un projet vidéo et lui n'a pris que le texte pour en faire une poésie, comme tu dis, qui plane, planante, où ils sont after, un petit peu un after d'une fête. Où ils sont
Moi, j'ai vu la répétition, j'ai vu une espèce de filage. Ils sont à quatre sur scène, il n'y a rien de rien, quelques micros, et ils sont tous un peu shootés sous LSD, ils rêvent d'accident, dans des trips, c'est très curieux.
Sur une musique électro.
On est vraiment happé là-dedans, de temps en temps, ils chantent et ils sont complètement à la masse. On a l'impression qu'on assiste à 4 heures du matin. Tout le monde se reconnaît dans ces soirées nocturnes hyper foireuses où il y a quelqu'un qui nous fait une crise existentielle, qui reproduit sur l'autre. Et finalement, c'est des conversations à la mort moelle-neuve, mais tout le monde se prend la tête et il est 5 heures du matin et il faut juste attendre la descente et se dire, bon voilà, on a été pathétique cette nuit-là.
Heureusement, c'est assez court, je crois. Hein. C'est 1h15.
Oui, 1 heure. Mais vraiment, on est happé et franchement, les nuits pathétiques que chacun a passées à se faire une crise existentielle, vous vous reconnaîtrez.
Tout le monde n'a pas une vie si trépidante.
Après la mère dépressive. Et alors, juste pour vous dire qu'après ce spectacle, il y a un autre, et là, c'est carrément un tube, c'est deux voix. C'est sur des textes de Pierre Pasolini et de Cork Orchestrator. Allez savoir, c'est le PDG de Shell. Ça a été des textes mixtes, et c'est sur le capitalisme, le monde qui part en couille. Et c'est un solo de Jeroen Willems, qui est un comédien flamand, aussi une bête de scène. Et voilà, c'est un dîner chic, tout part en couille, et ça, c'est sa logorée un peu cynique. Donc voilà, après les mères dépressives, de quoi se plomber la semaine au théâtre Les Tanneurs. Ainsi se termine la conspiration des planches, évidemment encore affonnée. On a eu Romain Gary, La vie de Vansoy, L'écume des jours, Boris Vian, Nothing Hurt, Genèse à la balsamine et la reprise de Toutes nos mères sont dépressives. La semaine prochaine, vous retrouverez Catherine au micro. Bonne semaine à tous. Au revoir tout le monde.
Et n'oubliez pas que le podcast de cette émission sera disponible sur le site www.demandezleprogramme.be. Belle soirée et belle journée à tous.
Bonne planche.
Radio Campus, le carnaval c'est dans ta tête.